Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Do you speak English, people? Est-ce que vous parlez l'anglais? Il y a bien des gens qui ne le parlent pas, mais encouragent leurs jeunes à le faire, parce qu'aujourd'hui, on vient d'en parler pendant une heure du marché du travail qui a changé et de la mondialisation, de la numérisation. Beaucoup de gens disent, on n'a pas le choix de parler anglais au Québec. Il y a bien des gens qui vont dire, d'ailleurs, les jeunes parlent bilingue. Vous écoutez, les jeunes parler entre eux, c'est du bilingue. Il y a un mot de français, un mot d'anglais, au grand désarroi, d'ailleurs, de leurs profs de français. Et c'est vrai que parfois, on aimerait qu'il y ait un meilleur français parlé. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais parlons du bilinguisme et de nos politiciens. Vous avez peut-être entendu dernièrement François Legault, le chef de la CAQ, qui, voulant s'exprimer dans la langue de Shakespeare, nous a un peu étonnés. On a un extrait, d'ailleurs, de François Legault.
And there's no rapport de force between Quebec and the rest of Canada for mainly economic reasons. So I think that at this point, making this constat, I'm sorry,
observation,
we have to find a way.
Mais c'est pas, vous allez me dire, c'est pas si mal, il se fait comprendre dans le fond. Ça, c'est du parler bilingue. There is no rapport de force. Making this constat, ça ressemble à du bilingue. Est-ce que, bon, on s'est un peu amusé avec l'équipe en entendant François Legault. Ça nous rappelait un peu Pauline Marois, d'ailleurs, aussi. On va se le remettre en bouche, Pauline Marois, à une certaine époque, qui avait de la difficulté à dire ne serait-ce que quelques mots en anglais.
À mes yeux, it continues to be... Je recommence. Je m'excuse, je suis très fatiguée ce matin. I don't want to really change le Parti québécois.
Bon, là-dedans, on l'a pris, c'est un extrait qu'on a pris sur Internet. Je vous avoue, c'est fort possible qu'il y ait un petit peu de montage là-dedans, mais il reste pas moins qu'on se souvient de cette époque où Pauline Marois était allée à l'étranger en Écosse et où elle avait un peu, disons, eu de la difficulté à s'exprimer, c'était le moins qu'on puisse dire. Ça avait eu un certain effet, une espèce de douche froide, finalement. Pour en discuter, parce que la question est importante quand même, est-ce que nos politiciens au Québec doivent être bilingues? On peut dire que non, finalement, on peut dire que c'est pas obligé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. 514-790-9850. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Jean-Pierre Charbonneau est commentateur politique, ancien député et ministre du Parti québécois. Merci d'être là, Jean-Pierre.
Ça me fait plaisir, Isabelle.
Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, in the Gazette.
Oh, in England. Oh, in English. I don't know.
Est-ce que nos politiciens doivent être bilingues, Jean-Pierre?
Non. Je n'étais pas bilingue. Je ne suis pas parfait bilingue. Je suis ce qu'on appelle un bilingue fonctionnel.
Et c'est quoi, ça, un bilingue fonctionnel?
C'est-à-dire que je vais être capable de donner une entrevue, de parler, de faire à peu près les fautes que François Legault a faites, peut-être un peu moins. J'en aurais fait peut-être un peu plus il y a quelques années. Mais en bout de piste, là, au Québec, et dans la plupart des endroits au monde. Et je ne dis pas ça, là, parce que je pense pas que l'anglais doit pas être enseigné et maîtrisé. Mais je pense qu'au Québec, un dirigeant politique n'a pas besoin d'être bilingue pour être un bon dirigeant politique, pour être un bon premier ministre, pour être un bon chef de l'opposition, pour être un bon ministre, pour être un bon député. Moi, j'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai été responsable de la diplomatie parlementaire du Québec. Je me suis promener pas mal, y compris aux États-Unis, en Amérique latine. Et quand mon bilinguisme fonctionnel n'était pas suffisamment fonctionnel, par exemple, quand j'allais en Amérique latine, j'avais toujours une interprète ou un interprète qui m'accompagnait. J'avais des fonctionnaires qui étaient plus bilingues que moi. Et en bout de piste, quand les gens nous jugent, ils nous jugent pas sur notre bilinguisme, ils nous jugent sur le jugement qu'on porte, sur le type de décision qu'on prend, sur l'attitude qu'on a, etc. On est au Québec. Et, m'excuse, il n'y a pas 15 langues officielles, il y en a une. Oui. Moi, je maîtrise la langue officielle, puis je me débrouille dans l'autre, celle du Canada.
Lise Ravary.
Ça dépend encore là du niveau de bilinguisme entre Mme Marois, malheureusement, et pour elle, parce que c'est embarrassant pour elle, la première. Là, son entrevue à la BBC en Écosse, là, c'est un document d'anthologie, là, c'est vraiment embarrassant. Et François Legault, parce que François Legault, je ne veux pas le défendre, là, mais j'ai jamais eu de conversation en anglais avec lui, mais ce gars-là, quand c'était chez Air Transat, il allait chez Boeing acheter des avions, là. Fait que j'imagine qu'il devait être capable de... Bon.
Pour de un négocier en anglais, tu
sais? Ben, tu sais, un minimum, là. Je suis pas mal sûre, là. Bon. Pour un politicien au Québec, je pense que ça dépend de jusqu'où il veut se rendre. quelqu'un pour devenir député, à la limite pour devenir ministre, mais si quelqu'un vraiment voit ou regarde ou espère la fonction la plus haute de l'État, pas parce que le français n'est pas la langue du Québec, mais parce qu'il y a une réalité démographique et géographique.
Ben
oui. Ouais. Je me dis qu'au bout de la ligne, si, par exemple, on parlera pas de Trump, mais si le président des États-Unis et le premier ministre du Canada ou la première ministre sont capables, pour régler un problème, de s'asseoir ensemble dans une pièce, de fermer la porte, de se parler dans le blanc des yeux, sans interprète, ça peut pas être mauvais.
Sauf que Pauline Marois là, n'a pas perdu ses élections parce qu'elle était pas parfaite bilingue.
Non!
Elle a perdu ses élections pour un certain nombre d'erreurs politiques, d'erreurs de jugement politique et de politique controversée. Moi, je suis d'accord avec Lise. Si j'étais premier ministre du Québec, j'aimerais bien parler avec mes homologues, par exemple, des États du Nord-Est, parce qu'il y a une réunion à chaque année entre le premier ministre du Québec et les gouverneurs des États du Nord-Est des États-Unis.
Mais avec les PM des autres provinces du Canada.
Mais moi, j'étais ministre des relations intergouvernementales. J'ai eu des rencontres avec les autres
mes
homologues
anglais,
des autres provinces.
Ou t'avais un interprète.
J'avais un interprète, mais souvent, je comprenais. Avant même que l'interprète ait fini, j'avais compris. Puis, parfois, j'ai répondu en anglais. Puis, à d'autres moments donnés, je me rappelle d'une réunion qui se faisait à Ottawa.
Ouais.
J'utilisais le service des interprètes et c'était bien fonctionnel comme ça.
Nos lignes sont pleines, les amis. J'ai hâte d'entendre les auditeurs là-dessus. On va commencer tout de suite avec Daniel. Bonjour, Daniel. Est-ce que c'est important pour vous que nos politiciens soient bilingues?
Non, pas du tout. Bon. Des preuves, vous en avez déjà plusieurs. On nous en a un présentement, un premier ministre que je respecte quand même, notre premier ministre canadien. Il est peut-être bilingue, mais il est pour moi pas fort. Si on regarde du côté conservateur, M. O'Leary, qui est un homme d'affaires, a été tassé de la course au parti parce qu'il ne parlait pas français. Puis, en dernier point, on pleure tout qu'on veut la Coupe Stanley à Montréal, mais il faut tout le temps que le coach parle le français. Écoutez, là, on peut pas tout avoir, puis on n'est plus dans les années 50. On est en 2018, on est mondial. Puis moi, je serais un homme d'affaires. Par exemple, comme vous parliez de Mme Marois, je pense que l'erreur qu'elle a eue, pour, comme vous dites, à la BBC, c'était de s'emmener une traductrice puis de dire « Je ne parle pas l'anglais, mais je suis compétente. » Il faut arrêter de regarder ces choses-là. Puis après, là, tout le monde se met à pleurer, encore une fois, qu'il manque encore d'intérêt pour être en politique. Ben là, si on commence à mettre les langues là-dedans, un jour, on va dire, ben lui, s'il est gay, il peut pas être politicien. Si lui, regardez, là, on peut-tu avoir du monde compétent de ce qu'ils ont dans la tête?
Là, ça n'a rien à voir. L'orientation sexuelle, c'est pas forcément une compétence.
Non, pour aujourd'hui, parce qu'on est rendu à parler de l'unilinguisme. Puis avant que je raccroche, puis je vous remercie de m'écouter, on demande d'être bilingue, mais le dernier ministre de la Défense nationale canadienne ne parlait pas un foutu mot français. Celui qui a un turban sur la tête, le sikh. Puis je suis sûr que ce monsieur-là, il a fait l'armée, il est super compétent.
Mais ça,
là,
sur les Canadiens anglais, puis là, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs préparé, merci Daniel de votre intervention, qu'on a préparé un extrait d'une intervention d'Andrew Scheer, parce que M. Scheer, qui par ailleurs a pris des cours de français, on peut pas dire qu'il maîtrise la langue de Molière pour autant.
Je crois sincèrement que les Canadiens réalisent qu'une taxe sur le carbone ne fait rien pour réduire les émissions. Il devient seulement une nouvelle source de revenus pour le gouvernement fédéral. Et c'est clair qu'il a caché la vérité sur les effets pour les travailleurs, les familles canadiennes. Et nous sommes contre les nouveaux impôts, les nouveaux taxes.
Sincèrement, c'est une bonne
question. Mais les conservateurs,
il y en avait des pires que ça.
On se souvient, Joe Clark à l'époque avait appris le français. Stephen Harper, moi, je me souviens quand il est arrivé au pouvoir.
Stephen Harper, c'était épouvantable.
Puis Stephen Harper, quand il est parti, son français était vraiment une amélioration.
Il commençait toujours en français, d'ailleurs.
Partout dans le monde. Partout dans le monde, que ce soit en Inde, en Chine.
Être premier ministre du Canada alors que deux langues
officielles. Ça durait pas longtemps, maintenant.
Non, il faisait toujours la version française de son discours.
Version française courte.
Puis.
And now the serious business, on va la faire en anglais.
Non. La même affaire après en anglais.
Mais Isabelle, tu disais tantôt, au Québec, je veux dire, au Canada, il y a deux langues officielles. C'est normal et peut-être que c'est une exigence, comme pour les juges de la Cour suprême, d'être bilingue. Mais au Québec ou en Ontario, un premier ministre n'a pas besoin d'être bilingue. Bien sûr que s'il l'est, c'est un
plus.
Moi,
je pense que c'est un atout, Jean-Pierre.
C'est, bien sûr, c'est un atout. Pas que
c'est une
atout.
Valeur ajoutée.
C'est une valeur ajoutée, une mais ce n'est pas une valeur ajoutée qui assure aux citoyens des décisions politiques adéquates, une gouvernance solide, un leadership fort. Tout ce que, finalement, on demande à un politicien. On ne leur demande pas d'abord d'être bilingue. On leur demande de prendre des décisions, de nous représenter puis de donner la direction correctement.
Mais moi, je pense que des fois, il y a des moments... Tantôt, je parlais des petites rencontres à deux. Revenons loin dans l'histoire. Le jour où René Lévesque et Jacques Parizeau se sont présentés à New York pour aller acheter, emprunter de l'argent chez les financiers de Wall Street, le fait que tous les deux étaient parfaitement bilingues, ça a dû les aider un petit peu.
J'allais revenir là-dessus. Tu vas pas là avec un interprète pour demander...
Ou parler...
Je suis d'accord que c'est un atout. Mais est-ce que c'est un atout indispensable? Je crois qu'il y a d'autres dirigeants politiques qui sont moins bilingues puis qui se font comprendre. Quand moi, j'allais avec mes homologues américains dans des discussions, on n'est peut-être pas toujours sur la scène publique, on faisait des échanges et moi, je parlais un anglais qu'ils comprenaient, ils faisaient bien des fautes et mon accent était clair, mais on se comprenait. Ouais. On faisait des affaires puis on discutait sur le fond des choses. Alors, faisons attention de tu sais, moi, je
non,
pense pas qu'au Québec, on doit...
Tu peux faire le langage des signes puis tu vas te comprendre. Mais après, tu as la richesse de la...
Oui, mais pourquoi pour nous, ça serait différent de partout ailleurs dans le monde? On n'exige pas
du bilingue. Notre géographie.
Oui, mais notre géographie, un instant, là.
Puis pour l'instant, on fait encore partie du Canada.
Non, mais c'est clair.
Oui, mais
on a Hicham avec nous. Hicham, bonjour. Hicham, votre opinion là-dessus? Est-ce que nos politiciens doivent être bilingues au Québec?
Absolument, Mme Maréchal. Moi, je pense que nos politiciens doivent absolument maîtriser les deux langues officielles du Canada.
Et celle du Québec?
Attendez, Jean-Pierre.
Oui, absolument. Non, non, écoutez, la langue, le français, absolument, il faut qu'on parle le français, mais bien sûr aussi, à la même longueur d'onde, il faut aussi maîtriser l'anglais.
Ah non, ça, je
ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, le problème, c'est que, et moi, je l'ai vécu ici même au Québec, moi, je parle trois langues. Alors que les Québécois de souche, malheureusement, pendant des années, pendant des décennies, alors ils se sont privés de l'apprentissage de la langue anglaise. Voulez-vous ou non, la langue anglaise, c'est une langue universelle, c'est la langue des affaires. Alors, comment voulez-vous un employeur qui a, par exemple, deux choix entre quelqu'un qui est bilingue et quelqu'un qui parle uniquement le français? Malheureusement, l'ancienne génération, il a commis une grande erreur. Une chance que la génération maintenant commence à apprendre et commence à voir l'horizon, c'est que l'anglais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle...
Vous dites que c'est primordial. Ouais.
Absolument.
Merci, Sam.
Je vais vous donner un exemple, Isabelle. Ouais. Il y a beaucoup de gens d'affaires québécois du Québec qui n'ont jamais été bilingues. Mais ils avaient l'intelligence et les moyens d'engager des employés dans des postes stratégiques qui, eux, l'étaient. T'sais, dans le fond, c'est comme pour un politicien au Québec. Si dans des situations stratégiques, comme tu retrouvais finalement en Écosse, et bon, ben tu fais affaire avec un interprète et tu te fais comprendre. T'sais, je trouve qu'au Québec, on a une facilité à se culpabiliser puis à se voir petit, comme si notre langue était moins importante que celle des autres. Puis il fallait toujours qu'on parle celle de l'autre.
Lise là-dessus.
Moi, je me souviens des paroles encore là, je reviens à Jacques Parizeau. Qu'est-ce qu'il avait dit, Jacques Parizeau, que essentiellement, là, je paraphrase.
Il a dit bien des affaires, Jacques Parizeau.
Non, je sais, mais qu'il n'avait pas une haute opinion des gens qui voulaient pas apprendre l'anglais.
Attention, ne pas vouloir apprendre, c'est une chose. Ne pas maîtriser la langue, c'en est une autre.
Ouais. Oui, mais encore là, on parle... Quel niveau de maîtrise?
Écoute, moi, je suis persuadée... Outremont comme Parizeau, puis je veux dire, c'est sûr que mon bilingue, c'était pas celle de Parizeau, puis j'ai pas fait les
Je suis persuadée que tu parles bien l'anglais.
Non, je parle pas très bien l'anglais. Je parle anglais assez pour te donner une réplique en anglais. Well, but I'm not sure if it's necessary in Quebec.
Oh, ben, mais voyons donc, il n'y a rien de mal avec ton anglais.
C'est ça, hein,
ton accent.
Il y a même un petit fond british.
Oui, puis tu peux
dire. Moi, je peux dire que mes profs de Tai Chi sont des Chinois qui parlent juste anglais et chinois. Ils m'ont beaucoup aidé au cours des 10 dernières années.
Mais tu sais, imagine, moi, je me dis toujours, on dit, c'est Hicham qui nous disait, c'est la langue, l'anglais, c'est la langue des affaires. On peut aussi dire qu'au Québec, on pourrait privilégier le fait de faire des affaires en français. et qu'ensuite, c'est toujours, c'est sûr que c'est désagréable que quand t'es 12 puis qu'il y en a un anglais autour de la table, que tout le monde se mette à parler anglais aussi. Il y a ça à mettre là-dedans. Bon, on va aller voir ce qu'en pensent les auditeurs après la pause. Je vais vous redemander, bien sûr, votre avis là-dessus. 514-790-9850. Vous faites sans frais le 1-866-790-9850. Vous nous dites si c'est important pour vous que nos politiciens soient perfectly bilingual. À tout de suite. Est-ce important que nos politiciens soient bilingues? Lise Ravary, Jean-Pierre Charbonneau sont avec moi pour en débattre. Lise estime que c'est un peu important, effectivement. Et Jean-Pierre est clairement contre le fait d'avoir des politiciens.
Pour une fois, je suis dans le camp du non.
Ben oui. Comment tu dis ça?
Ça dépend de la question.
Exactement. Justement. On a Jean-Pierre avec nous. Bonjour. Quelle est votre opinion là-dessus, Jean-Pierre?
Oui. Mon opinion est la même que Jean-Pierre, sauf dans le cas de François Legault. Parce que je pense pas que ça doit être une exigence. Mais par contre, François Legault qui veut imposer les examens de français aux nouveaux arrivants. Moi, je suis un immigrant, je parle 4 langues.
Ouais.
Je veux dire, François Legault qui est un homme d'affaires, grandi au Canada, puis qui ne parle pas la langue de son voisin du Sud et la langue du Canada, je veux dire l'anglais, l'autre langue du Canada, puis qui veut faire passer un examen. Je donne un exemple à un Vietnamien qui encourage son enfant puis qui l'incite à travailler fort, à réussir. C'est quoi la différence si cette personne-là ne maîtrise pas nécessairement très bien le français, mais c'est lui qui prépare ses déjeuners au Cora puis qui... toujours il est là après son enfant pour dire « Regarde, réussis, ouais. travaille, puis qu'il va réussir. » Je veux dire... je pense que quelqu'un qui vient avec une mesure comme ça se doit au moins parler les 2 langues officielles du Canada.
Mm-hmm. C'est ça le problème.
Merci,
c'est que
Jean-Pierre.
Ce raisonnement-là, c'est comme si on faisait des élections fédérales. Mais je m'excuse, on est au Québec, c'est un État fédéré qui a une grande autonomie au plan politique et il y a 1 langue officielle.
On n'est pas une province bilingue, hein?
Non,
Jean-Pierre,
non.
Officiellement, je pense qu'il faut le redire, il faut en profiter pour le dire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est une question de quiz. Combien y a-t-il de provinces bilingues au Canada, évidemment? Est-ce que je la donne, la réponse?
Ben oui.
Je veux dire, il n'y en a qu'une seule. Non, mais tu sais, là-dessus, il faut y penser.
Ah oui, les gens pourraient dire, il y en a.
Tu sais, moi, je me dis.
3, 4.
Ben, Manitoba, non, pas bilingue. C'est une province.
Non, mais ça pourrait l'être.
Ça pourrait. Le Québec, pas bilingue. Il n'y a que le Nouveau-Brunswick. Non, mais on va se coucher moins les yeux. C'est bon de se rappeler ça. Je l'avais comme oublié.
Sauf
moi.
Qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une campagne électorale actuellement.
Écoute.
Le chef conservateur.
Ne parle pas un mot de français.
Ouais.
Mais le chef du Parti libéral, Brian Gallant.
Ben, c'est un Acadien un peu anglicisé, mais qui parle les 2 langues bien.
Oui, il parle français.
Parle français, lui?
Oui, oui.
J'ai entendu. Avec son accent acadien. Là.
Oui, c'est ça.
Blaine Higgs, c'est ça? On les connaît pas, le Nouveau-Brunswick.
C'est juste à côté.
Mais écoute, on connaît pas notre Canada.
Effrayant. Ben on connaît le nom du premier ministre de l'Ontario, par exemple.
Effectivement, Radio-Canada, Acadie, a dû se résigner apparemment à annuler son traditionnel débat des chefs en français dans la seule province bilingue au Canada parce qu'il y avait trop de gens qui ne parlaient pas français. Fait que tu imagines, tu fais un débat en français, mais il n'y en a pas qui parlent français, il n'y en a qu'un.
Mais ils l'ont fait en Ontario il y a quelques années, puis je pense qu'il y en avait un des candidats qui avait un interprète. Ou qui n'a pas participé. Il y a eu un débat en français en Ontario aux précédentes élections avec Mme Wynne. Mais il y en a qui n'étaient pas là parce qu'ils parlaient
pas Ontario, assez. Regarde, en Ontario, après les dernières élections, quand Doug Ford est devenu premier ministre, son discours inaugural qu'en anglais...
Doug Ford, il ne parle pas français.
Aucun mot en français.
Non.
Pas de mention aussi de la réalité francophone. Pas de ministre responsable.
Ben non, il y a annulé, peut-être qu'après,
après quelques bières, peut-être que...
Je sais pas, ou d'autres substances.
Ouais.
Il a annulé le ministère qui s'occupait des francophones. Il l'a aboli, il a mis la clé dans la porte. Merci, bonjour. C'est une des premières choses qu'il a faites.
Mais pour ceux qui doutent de l'efficacité des interprètes, moi, j'étais en mission parlementaire souvent en Amérique latine, j'avais une interprète qui était d'origine brésilienne, qui parlait portugais, italien, espagnol, français et anglais. Et quand elle travaillait avec moi, je conversais avec mes homologues, souvent en portugais ou en espagnol, et j'avais l'impression d'être, moi, bilingue.
Ouais, ouais.
Parce que la dynamique entre elle et nous était extraordinaire. Mmh. Alors, et puis on se comprenait, puis on a fait bien des ententes ensemble.
Madeleine est avec nous. Quelle est votre opinion là-dessus, Madeleine?
Bonjour. Alors, effectivement, moi, je pense qu'on ne doit pas exiger qu'ils soient bilingues, mais ils vont se rendre compte très rapidement que c'est un atout extrêmement important.
Voilà.
Mais oui.
Alors, voilà.
C'est tellement bien résumé. Merci beaucoup, Madeleine. Richard, votre opinion, est-ce que nos chefs politiques doivent être bilingues?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Absolument pas, je suis d'accord avec... Non, absolument pas. Là, on foirait un petit peu. Tu sais, Manon Massé, là, la langue anglaise et la langue officielle du Québec, Philippe Couillard.
Hey, Manon Massé, on a un extrait d'elle en anglais.
Oui, je reviens contre Philippe Couillard, mais Pauline Marois respectait les Québécois, ce que ne fait pas Philippe Couillard.
Ouais.
Il fait ses publicités directement en Europe. Avez-vous vu la publicité des libéraux? Il n'y a pas... Il n'y a pas un Québécois, il n'y a pas un francophone là-dessus. La journée que vous pourrez cracher sur Pauline Marois, là, mm-hmm. elle était pas mal plus respectable pour les Québécois que Philippe, le vétérinaire Couillard.
Oui, il est médecin. On a Manon Massé, justement. Merci de votre appel en anglais.
I asked for two things. In the elementary and high school, to have this cours d'éducation à la sexualité.
Sex ed courses.
Sexual courses. To have sexual courses in
sexual
the...
Sexual education.
Sorry?
Sexual education courses,
education.
Just pour faire la précision.
Et non pas sexual courses, intercourse.
Yeah. Oh, sorry. That, well, yeah. So, sexual education for the elementary and high school.
C'est ça qui peut arriver. Ça, il peut y
cute,
avoir
ça.
Des... Oui, c'est cute dans un contexte
oui,
comme
sur,
ça. Mais
surtout
oui.
ce contexte-là.
Oui,
là,
dans un contexte sexuel, c'est ce que tu veux dire.
Oui, mais non, mais non, ça dépend aussi du moment de la, du moment où ça se passe.
Oui. Mais il peut son anglais, Manon Massé.
Bah, moi, je trouve pas...
Regarde, moi, je comprends que c'est un atout. J'ai pas pu faire comme Lise, avoir des chroniques dans, à la Gazette.
Mais Lise, toi, t'es bilingue, t'as travaillé en anglais, chez les Anglais.
Ouais.
Comment ils voyaient ça, ton bilinguisme? Est-ce qu'ils estimaient? Souvent, ce qui va arriver, moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand tu tombes devant un anglophone unilingue anglais, il est impressionné de voir que les francophones peuvent être bilingues. On est quand même les plus bilingues au Canada.
Ou qu'on fait des efforts, ce qu'ils ne
oui,
font pas.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors, j'ai toujours eu une bonne réception. Moi, j'étais chanceuse. Je n'ai jamais eu à me battre avec des collègues anglophones pour des raisons de langue et de t'es francophone, je suis anglophone.
On t'a jamais dit « speak white »
On m'a jamais dit « speak white », mais on l'a dit à ma mère, mais pas au travail. On l'a dit au centre-ville, dans certains magasins.
C'est épouvantable, ça, quand
qui
même. Il y a beaucoup de Québécois qui se sont fait dire
ah,
ça.
Oui, ben, oui,
les
mais
plus vieux, là, ils s'en souviennent de cette époque.
Oui, oui,
peut-être remettre
marque.
Dans le contexte du « speak white ».
Dans
là.
Certains endroits, encore à Montréal... Ouais. Il y a des gens qui ont la tentation de...
Mais ils disent plus ça comme ça.
Non, mais ils disent avec une certaine, malgré tout, arrogance ouais. et...
Ouais, je pense pour masquer leur indigence. Parce que moi, je pense, comme tu disais, les anglophones, j'ai beaucoup de courriers à la Gazette, beaucoup de courriers. Mm-hmm. Les gens sont... je dirais admiratif.
Oui. Et envieux, même. Ils sont comme, ah,
oh,
I should too.
Comment ça
j'aimerais ça, moi aussi,
que vous êtes capable
ouais.
de maîtriser ma langue à ce point-là.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais.
Et dans le fond, au Québec, ce que les gens apprécient, y compris les gens de la communauté anglophone, c'est quand un homme ou une femme politique qui n'est pas parfait bilingue fait des efforts.
Mais justement, et dans le cas de François Legault, c'est intéressant, parce que là, on le dit, il faut qu'il aille charmer un peu la communauté anglophone et plus allophone aussi, c'est-à-dire les allophones ont tendance à aller beaucoup plus vers l'anglais quand ils apprennent une langue. C'est pas forcément le français, c'est plutôt l'anglais. Donc, ce devoir-là, comme chef... On parle pas de député, puis encore moins s'il était d'arrière-ban, mais comme chef d'un parti, moi, j'ai l'impression que c'est, je disais tout à l'heure, une super valeur ajoutée. C'est même au-delà de ça. Moi, je dirais que c'est une importance capitale, justement, pour reprendre ce que Lise tout à l'heure disait, c'est-à-dire que si tu veux être chef d'une province, d'un gouvernement, dont quand même, il y a quoi, de 30% d'anglophones officiels, ou c'est même plus
au
que
Québec,
ça, ce qu'il y a
au Québec,
les allophones.
Non, non,
mais
non,
avec
non,
les allophones.
Non, non, c'est 20%.
C'est
18.2. C'est 10% moins que ce que tu mettais.
Peut-être, mais moi, je mets bien des jeunes là-dedans qui parlent bilingue.
Si tu prends juste les anglophones de souche.
Ouais. Ah, hein, mais là, si les deux souches, c'est encore moins.
Oui, là, on est. Ouais.
9%.
Oui, c'est ça, exactement. Hein? Exactement.
Mais des allophones?
Plus un autre 9%.
Ouais, voilà, on en était à Mont-Trente.
Mmh. Ouais, puis aux dernières élections, le lendemain des élections, il y avait la responsable des sondages de l'Université de Montréal, Claire Durand, qui avait calculé que 93% d'entre eux avaient voté libéral.
Ah ouais. Est-ce que parce que les libéraux parlent aussi anglais?
Non, parce que c'est là qu'on le voit. René Lévesque était parfait bilingue. C'est toi qui le disais tantôt.
Oui, ben, il était parfait bilingue.
Ça n'a pas empêché les gens de voter contre lui. Ouais. Il le respectait. Mmh. Il aimait ça. Et puis, l'atout que René Lévesque avait, c'est par exemple, il pouvait très bien, comme Gilles Duceppe d'ailleurs, se promener dans le Canada anglais, faire des discours, essayer de leur expliquer notre
Gilles
point
Duceppe
de vue.
Gilles Duceppe parle très bien anglais.
Très bien anglais, oui.
Mais ça ne les a pas convaincus pour autant.
Ouais.
Et ça n'a pas fait nécessairement d'eux des meilleurs ou des moins bons chefs politiques.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
C'est quand on vote, là, qu'est-ce qu'on cherche? Le bilinguisme ou finalement des gens à qui on a confiance, qui vont
prendre le leadership et l'assumer? Mais moi, je pense que si tu es anglophone, tu vas beaucoup plus facilement voter pour quelqu'un qui maîtrise ta langue que pour quelqu'un qui ne le fait pas.
Puis l'inverse est vrai.
Et l'inverse est vrai. Ouais,
mais tu parles
ça n'a rien à voir avec la politique.
Ouais, non, je parle des anglophones.
Ah, ben des anglophones. Moi, je pense pas que si François Legault était parfait bilingue, il y aurait plus de facilité à convaincre les anglophones à Montréal.
Il y a d'autres problèmes.
C'est ça.
Oui, je veux dire, la question de l'immigration, des tests et tout
On l'a bien vu avec Hicham, qui
nous appelait. Il pourrait parler comme...
Ouais. J'en profite pour vous dire, à la fin de ce débat fort passionnant avec deux chers amis, qu'il y aura effectivement le grand débat des chefs, ça va être à Radio-Canada le 13 septembre. Les quatre chefs principaux vont être là, Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lizy, Manon Massé. Il va y avoir, ça c'est le 13, puis il y a aussi un débat en anglais, c'est ça que je voulais vous préciser. Il y a un débat en anglais entre les quatre chefs, le 17 septembre, ça va être, puis il y a aussi un face-à-face sur les ondes de TVA de LCN. Donc, il y en aura des débats des chefs, pas sûr qu'il va manquer.
Pourvu qu'ils disent toujours
en
la
français
même chose.
Et en anglais. Oui, c'est ça. Ça, c'est ben important. Là,
quand t'es bilingue,
si tu dis quelque chose en français,
oh, oui, mais il y a
la même chose en anglais.
Ça.
Oups, ma langue.
Il n'y a pas M. Trudeau. Je sentais Justin Trudeau aussi qui a tendance à...
Oh, mon Dieu. Ouais. C'est le français de Justin Trudeau, des fois, il est comme twisted.
Puis l'autre affaire, c'est plus important de parler. Si tu parles juste une langue, le plus important en politique, c'est de respecter ta parole.
Oui, ça, c'est vrai.
Finalement, si tu as donné ta parole, par exemple, M. Trudeau, de faire une réforme du mode de scrutin, puis un an après, qu'il a fait pas parce que finalement, les gens n'ont plus besoin, finalement, ils sont contents de leur gouvernement, ça, c'est condamnable, bien plus que de ne pas être parfait bilingue.
Je pensais que nos auditeurs allaient en profiter pour nous faire la blague. Quelle est la langue prisée des politiques?
La langue de bois.
Oui, bravo! Elle était facile. Elle était facile. Elle aurait quasiment pu faire partie des pubs du Parti québécois.
Mais oui.
Franchement.
Bon, ben franchement, tu as entendu c'est les pubs du Parti québécois, sérieux? Sérieusement. Non, on a envie de leur dire sérieusement.
Oui, mais au moins, les photos étaient vraies au Québec.
Ouais, il y a ça. Il y a ça. Oui, ça nous rappelle à une certaine époque. Là, tu fais référence à...
Ben, les photos des libéraux, ce sont des photos achetées dans des banques de photos. Ouais. C'est pas des photos qui sont parties prendre en Europe.
Merci à tous les deux, Jean-Pierre Charbonneau, Lise Ravary. Merci d'avoir été là.
Je sais jamais dire non une fois en onde dans ma vie.
Oui, ben là, tu l'as fait.
Check.
Voilà. Coché. On est blingue ici.
À la prochaine.
Hey, les amis, avez-vous faim? C'est le temps de choisir son hamburger. D'après vous, où est le meilleur hamburger au Québec? C'est la question qu'on va poser à nos invités.
Ça doit être au Saguenay.
Pourquoi?
Pourquoi?
Ouais.
Au Saguenay, c'est un endroit où un chat n'est pas un chat, mais un tigre.
Ah, c'est ça.
Voilà.
c'est effectivement la semaine nationale du hamburger et je vais vous demander où vous avez mangé le meilleur de votre vie au Québec. Ça peut être aussi ailleurs, hein? Dans le Canada anglais. Aussi, c'est un hamburger dans ce temps-là.
Au States.
On a des invités qui vont... Il y a déjà des gens qui m'ont dit, j'ai quelques noms à vous donner, puis vraiment, là, on veut savoir où c'est. Déjà, regarde, des gens ont des idées. 514-790-9850. À tout de suite, tout le monde.